Le débat du jour. Adrien Delgrange.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour.
RFI.
C'est un haut lieu de pouvoir et de décisions internationales créé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Appelé communément gendarme du monde ou gardien de la paix mondiale, je vous parle du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'organe exécutif de l'ONU basé à New York. Le Conseil de sécurité dispose de pouvoirs spécifiques comme la mise en place de sanctions internationales, l'intervention militaire et le maintien de la paix. Depuis octobre 1945, cinq États sont assis en permanence à la table du Conseil de sécurité, les États-Unis, la Chine, la Russie, le Royaume-Uni et la France. Alors ces pays sont-ils aujourd'hui représentatifs du monde contemporain? L'augmentation du nombre des membres permanents du Conseil de sécurité est-il possible? Si oui, comment procéder? Et puis, le droit de veto dont jouissent certains pays est-il un frein à l'action de l'ONU ou encore une garantie pour tenter de maintenir la paix sur la planète? Ces questions ne datent pas d'hier, elles ont été relancées récemment par le vice-chancelier allemand Olaf Scholz. A tout simplement demandé que la France cède son fauteuil de membre permanent et que le siège soit occupé à la place par l'Union européenne. Faut-il réformer le Conseil de sécurité de l'ONU? Telle est la question que nous nous posons aujourd'hui. Et pour nous éclairer sur le sujet, deux invités. Alexandra Novoselov, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en sciences politiques, chercheuse associée au Centre Thucydide de l'Université Paris Panthéon Assas et vous avez dirigé l'ouvrage collectif Le Conseil de sécurité des Nations Unies entre impuissance et toute puissance aux éditions du CNRS paru en 2016. Et puis nous sommes en ligne avec Lakhdar Brahimi. Bonsoir.
Bonsoir.
Ancien médiateur de l'ONU et de la Ligue arabe, vous avez démissionné en mai 2014. Ancien ministre algérien des Affaires étrangères et ancien représentant spécial de l'ONU pour la Syrie. En guise d'introduction, je voulais vous faire réagir sur cette idée allemande que la France cède son siège au profit de l'Union européenne. Vous en pensez quoi, Alexandra Novoselov?
Je pense comme le représentant permanent de la France auprès des Nations Unies, c'est-à-dire que c'est une fausse bonne idée.
Monsieur Delattre.
Voilà, et que pour avoir un siège de l'Union européenne, encore faudrait-il avoir une politique étrangère unique, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui, notamment au regard des divisions entre Européens qui sont grandissantes. Et puis, il faut aussi dire que le Conseil de sécurité est bâti sur une composition d'États. C'est les États qui sont membres du Conseil de sécurité et pas des organisations régionales ou internationales.
Et vous, Lakhdar Brahimi, quel est votre avis?
Vous savez, ce n'est pas une idée nouvelle. On en parle régulièrement depuis déjà longtemps. On dit que les pays membres de l'Union européenne, surtout au moment où il parlait beaucoup d'une politique étrangère commune, en deux sièges, ou avait deux sièges, parce que maintenant avec le Brexit ça a changé, la Grande-Bretagne et la France. Et que peut-être que l'Union européenne devrait avoir un seul siège. Mais enfin, je crois que ce n'est pas réaliste, ça m'étonnerait beaucoup que la France accepterait de céder son siège à l'Union européenne.
La France pas forcément prête.
Encore moins, surtout maintenant qu'ils ne sont plus ou qu'ils ne vont plus être membres de l'Union européenne.
Alors, si la France n'est pas forcément prête à céder son siège, la France en tout cas réclame l'élargissement du nombre de membres permanents à d'autres pays par la voix d'anciens présidents de la République comme Jacques Chirac ou François Hollande. Vous partagez aussi cet avis, l'élargissement du nombre de membres au Conseil permanent du Conseil de sécurité, Alexandra Novoselov?
Alors, je pense que la France ne réclame pas, mais elle y est favorable. Parce qu'elle voit bien que dans le monde d'aujourd'hui, les cinq, il y a des prétendants, il y a des puissances qui se sont affirmées, qui sont développées et qui prétendent aujourd'hui vouloir avoir un siège permanent au sein du Conseil de sécurité pour participer à la gestion des affaires du monde. Pour ma part, moi, je pense que cette réforme n'aura pas lieu. Parce que il faudrait d'abord que les actuels membres permanents cèdent, acceptent de partager ce pouvoir et acceptent donc d'avoir un processus décisionnel beaucoup plus compliqué, parce qu'on sait très bien que aujourd'hui le Conseil de sécurité est à 15 membres.
5 membres permanents, 10 non permanents.
Voilà.
Renouvelables tous les ans.
Voilà. On dit qu'une réforme pourrait avoir entre 21 membres et 25 membres. Et donc, forcément, un processus décisionnel beaucoup plus compliqué.
Et alors que l'Allemagne donc demande à la France de céder sa place, il se trouve qu'au 1er janvier prochain 2019, elle fera partie donc de ses membres non permanents. Aujourd'hui, l'ONU compte 193 États membres. Pour vous, Lakhdar Brahimi, est-ce que la composition du Conseil reflète le monde actuel ?
Non, je crois qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de divergence de vue là-dessus. Non, le Conseil de sécurité tel qu'il est aujourd'hui n'est pas représentatif. Et si vous voulez, en théorie, tout le monde est d'accord pour élargir le... Enfin, vous savez, l'Inde et le Japon, quand même, je ne vois pas pourquoi la France, la Grande-Bretagne... la Chine sont membres et pas le Japon et l'Inde, et l'Allemagne aussi. En réalité, vous savez, à la fin de la guerre froide, il était pratiquement acquis, et là je parle sous le contrôle d'Alexandra, parce qu'elle c'est une grande spécialiste du Conseil de sécurité, à la fin de la guerre froide, il était pratiquement acquis que l'élargissement allait se faire.
Et pourtant...
On parlait de trois pays en particulier, plus... 2-4 pays qui représenteraient le tiers-monde, des pays du tiers-monde, ce qu'on appelait à l'époque le tiers-monde. Mais, vous savez, là aussi, pour la petite histoire, vous avez deux ambassadeurs qui étaient à l'ONU, qui ont pratiquement seuls empêché l'élargissement du Conseil de sécurité. L'ambassadeur du Pakistan, Ahmed Kamal, et l'ambassadeur d'Italie, qui s'appelait, je crois, M. Fulci.
Oui.
Et ces deux ambassadeurs ont mobilisé toutes les contradictions qui existent au sein des Nations Unies, et l'élargissement ne s'est pas fait. Alexandra dit qu'elle pense que l'élargissement ne se fera pas. Je crois que... disons que ce sera très difficile.
Sur quels critères aujourd'hui de nouveaux membres pourraient faire partie du Conseil permanent de sécurité?
Je crois que l'idée c'est très certainement l'Inde, le Japon et l'Allemagne, plus alors des représentants de l'Afrique, d'autres représentants de l'Asie et des représentants de l'Amérique latine.
Si on prend le critère démographique, est-ce que ce n'est pas le continent africain qui est le grand absent, Alexandra Novoselov?
Oui, je crois qu'il y a d'abord il y a le groupe des quatre. Qui sont...
Alors quand vous dites le groupe des quatre...
C'est des quatre qui sont les prétendants.
Inde, Allemagne,
Japon...
Brésil.
Et Brésil. Et deux représentants de l'Afrique, puisque l'Afrique n'a pas de siège permanent au Conseil de sécurité, tout comme l'Amérique latine d'ailleurs. Donc on peut considérer que ces deux régions seraient les plus à même d'avoir ce siège plus que les autres. Seulement, le problème, c'est que l'Afrique, l'Union africaine n'arrive pas à se mettre d'accord. C'est-à-dire que on a désigné un groupe des quatre, mais on n'a jamais désigné les deux pays qui pourraient représenter de manière permanente l'Afrique au Conseil de sécurité, parce qu'on a considéré que c'était à l'Union africaine de statuer sur cette affaire. Et elle n'a jamais pu le faire.
Votre point de vue là-dessus,
Lakhdar Brahimi? Si je me trompe, pas, les latinos aussi ne sont pas d'accord pour le Brésil.
Oui.
Et même l'Asie n'est pas entièrement d'accord aussi. Enfin, il y aura certainement des réticences de voisinage et autres. Mmh. C'est vrai que moi je redis, n'est-ce pas, que immédiatement après la fin de la guerre froide, il aurait été possible de réformer le Conseil de sécurité. Alors là, évidemment, le folklore, si vous voulez, c'est ces deux ambassadeurs du Pakistan et de l'Italie qui ont empêché, mais en réalité, c'est les cinq permanents.
Alors justement, les États-Unis, la Chine, la Russie, le Royaume-Uni et la France, voilà, donc oui, siègent depuis maintenant 75 ans. Est-ce que ce statu quo ne les arrange pas finalement ?
Non, enfin, je crois que d'abord, il y a aussi un des critères qui est d'avoir une diplomatie mondiale et d'avoir une qui soit à même de gérer. Il y a un principe de responsabilité dans le fait d'être membre permanent du Conseil de sécurité, et ça c'est un des critères qui avait été décidé en 1945. Et pour ça, il faut une diplomatie mondiale, et les cinq ont cette diplomatie mondiale, ce que n'a pas encore, il faut le dire quand même, un pays comme l'Inde, un pays comme le Brésil, ni même un pays comme le Japon ou l'Allemagne. Donc ça c'est un premier principe. Et le deuxième principe, c'est le Conseil de sécurité est un organe restreint pour pouvoir prendre des décisions rapidement.
Et le débat du jour sur RFI.
Avec Alexandra Novoselov en direct et Lakhdar Brahimi, faut-il réformer le Conseil de sécurité de l'ONU ? Je voulais vous faire réagir aussi sur ce droit de veto à New York. La voix des cinq résonne d'autant plus fort qu'ils possèdent donc chacun ce droit de veto. Est-ce que d'après vous, il faut le remettre en cause ou alors l'élargir au moins aux membres non permanents, Lakhdar Brahimi ?
Tout d'abord, ces critères dont Alexandra Novoselova vient de parler, ils ont été créés par les cinq permanents. J'ai pas l'impression qu'ils fassent partie de la Charte des Nations Unies. C'est le club qui veut rester fermé et qui veut garder ce droit de veto. Ce droit de veto qui est utilisé toujours pour les causes nationales. Si les Américains ou les Français ou les Britanniques ont un problème qui touche à leurs intérêts nationaux, ils utilisent le veto. La Chine le fait régulièrement, la Russie le fait régulièrement, tout le monde le fait régulièrement. Le droit de veto, c'est une bonne idée. Qui est très très mal utilisé. Mmh. Et vous avez, les États-Unis utilisent leur droit de veto automatiquement chaque fois qu'il s'agit de quelque chose qui ne plaît pas à Israël. Mmh. C'est pas la manière dont ce droit est utilisé lui a donné une très très mauvaise réputation.
Mmh. Et pour bien comprendre,
mais là encore, j'ai pas l'impression que ce soit possible dans l'avenir immédiat de le mettre en cause. Mmh.
Le rôle du Conseil de sécurité, il faut bien comprendre qu'il est plus simple en fait de s'opposer avec le droit de veto, car pour prendre une décision positive, il faut aussi en fait l'accord d'une partie des membres non permanents. Ce droit de veto, là aussi, faut-il le réformer, Alexandra Novoselov ?
Non, moi je pense que pour ma part, je pense qu'il n'est pas réformable. C'est-à-dire que pour aujourd'hui, les projets de réforme du Conseil de sécurité qui sont sur la table, les élargissements qui sont les formules d'élargissement qui sont sur la table ne prévoient pas de donner le droit de veto aux nouveaux permanents qui seraient désignés.
Donc, et vous en pensez quoi ?
Les aspirants voudrait bien avoir le droit de veto. Il y a, l'Inde, notamment, ne voit pas pourquoi la Chine a le droit de veto et pas eux s'ils deviennent membres permanents. Il y a eu, si vous voulez, des formules pour faire accepter la réforme du Conseil de sécurité aux cinq permanents qui ont nous-mêmes, vous savez que j'appartiens à un groupe qui s'appelle les Elders, qui a été créé par Mandela, et nous avons présenté quelques idées qui donnent une nouvelle genre d'élection. Vous savez qu'il y aurait des membres qui seraient élus pour 10 ans, renouvelables. On les appellerait pas permanents, mais ils seraient élus pour 10 ans, non pas pour 2 ans, comme les non-permanents actuellement, et qui n'auraient pas le droit de veto. Mais c'est pas décidé encore. Hein. Ça, c'est des formules qui sont présentées. Malheureusement, aucune n'est acceptée encore.
Est-ce qu'en utilisant son droit de veto, en tout cas lorsque certains États l'utilisent, est-ce qu'ils ne manquent pas à leur propre devoir, qui est de maintenir aussi la paix et donc favoriser l'amplification des conflits, Alexandra Novoselov?
Je crois que le droit de veto aussi est le reflet de la division du Conseil de sécurité. Je crois que le droit de veto, d'abord, il a permis la création des Nations Unies en 1945, et aujourd'hui il empêche que des grandes puissances comme les États-Unis notamment, ou la Chine partent de l'organisation. Et je crois que l'un des bénéfices du droit de veto, d'abord c'est une soupape un peu de sécurité, l'un des bénéfices c'est aussi d'amener l'ensemble des membres du Conseil vers la négociation, de négocier tant et plus pour arriver à dépasser cette division. Mais le droit de veto est un reflet, quand on l'utilise, il est un reflet de la division du Conseil de sécurité.
Mais quand la division, c'est 14 contre 1, et que...
Oui, ça c'est vrai que...
la démocratie, 1 est bas à 14... C'est un peu beaucoup quand même.
Oui, non, c'est vrai que sur le conflit israélo-palestinien, il y a eu, on peut dire, un abus de l'utilisation du droit de veto.
Alors justement,
Boutros-Ghali n'a pas été réélu parce qu'il y a eu 14 votes pour lui et un vote contre lui.
Oui.
En guise de conclusion, Lakhdar Brahimi, est-ce qu'une réforme du Conseil de sécurité doit passer par une réforme plus générale de l'ONU, ou est-ce qu'il est possible de dissocier les deux?
C'est dissocié parce que, le, si vous voulez, il y a un chantier de réforme qui est pratiquement permanent. On a réformé pas mal de choses dans le fonctionnement des Nations Unies. Et c'est une organisation quand même qui a commencé à peine 50 et qui est maintenant à 183 et qui fonctionne quand même. C'est pas trop mal. Le Conseil de sécurité, il faut en discuter séparément. Je crois qu'il faut continuer à exiger des réformes, mais il faut avoir le réalisme et l'honnêteté de reconnaître que ce ne sera pas pour cette année ou l'année prochaine ou les cinq années qui viennent.
Et vous, Alexandra Novoselov?
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire M. Brahimi. L'ONU n'a pas cessé de se réformer dans tous ses domaines d'action, que ce soit le développement actuellement, les opérations de maintien de la paix, la réforme du secrétariat, des structures, etc. Et que la réforme du Conseil de sécurité, c'est quelque chose qui doit être traité à part.
Merci beaucoup à tous les deux pour ces échanges verbaux au sujet d'une réforme ou pas du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est la fin de ce débat que vous pouvez réécouter quand vous voulez sur notre site internet rfi.fr. Demain, nous nous intéresserons au vrai du faux dans l'information.